France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Sur France Culture à 8h30 en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau pour Soleil, rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Alors depuis janvier, nous travaillons chaque premier dimanche du mois une réflexion autour du personnage de l'apôtre Paul avec le pasteur Pierre Magne de la Croix, qui est président du conseil synodal de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, pour cheminer sur les traces de cet apôtre, l'apôtre Paul. Esclavagisme, pouvoir politique, identité, voici donc le quatrième et dernier point que nous aborderons. Nous sommes à 2 semaines de Pâques et ce sera donc Paul et la résurrection. Comment la dire? Pour nous accompagner dans notre discussion et la nourrir, Vincent Smetana sera là avec sa chronique « Toujours le mot pour dire ». Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis, c'est le quatrième rendez-vous, 4 mois.
4 mois.
4 fois pour parler de ce personnage qui est absolument, finalement, assez extraordinaire, cet apôtre Paul. Hein.
Captivant, ouais. Interpellant, parfois gênant, mais... Il me fait avancer, ouais, il me questionne. Et...
Le petit Paul, puisque vous nous rappeliez que voilà son nom...
Il est petit, il prend petit. Lui-même le nom de petit, mais par ses écrits, par ses réflexions et aussi par ses... On le sent par son caractère, sa vie, ses hésitations, ses blessures, ses réussites. Peut-être qu'il est quand même un peu grand.
Bon, entre nous, Pierre Magne de la Croix, on va parler de résurrection ce matin.
Oui.
On peut en parler sérieusement? C'est possible aujourd'hui encore?
Peut-on en parler sérieusement et simplement alors qu'on n'en sait rien, on connaît rien?
Ouais.
Et là, on entre dans un domaine fabuleux qui est celui d'une parole de conviction, mais aussi du langage. Comment dire les choses? Mais on va voir qu'il ne s'agit pas tellement d'expliquer... ou de décrire, on va pas faire des révélations, mais plutôt d'illustrer et de donner à comprendre.
Est-ce que c'est un peu façon parabole, d'une certaine façon, métaphorique
Peut-être, et oui. Et déjà le mot, le verbe ressusciter en français, traduit une difficulté dans le texte du Nouveau Testament, le texte d'Abil, il n'existe pas ce mot. Hein, et pour illustrer cela, les auteurs utilisent des verbes comme être réveillé, être relevé, être remis debout, le terme autour de la vie, être au cœur des relations. Donc on sent que déjà il y a une multiplicité de langage. On parlera de tombeau vide aussi.
De pierre roulée,
de maladie et de santé, de mort et de vie, de quelqu'un qui mange de la poussière par terre et qui est remis debout sur ses pieds.
Alors quelqu'un qui est remis debout,
oui.
Ça veut dire que on ne se remet pas soi-même debout, c'est le fait d'un autre.
Alors souvent c'est le passif qui est employé, c'est-à-dire je ne me ressuscite pas, de même que je ne me baptise pas. C'est toujours en relation avec quelqu'un d'autre, avec un autre, avec Dieu. C'est-à-dire je suis relevé, je suis réveillé, je suis remis au cœur de la vie, je suis remis en santé. Et donc, cette importance fondamentale de la relation à l'autre. Je n'existe pas tout seul par moi-même et par mes relations à l'autre, par la relation que Dieu établit avec moi.
Ça fait des liens avec ce qu'on avait vu, notamment,
oui.
Par exemple, sur les appartenances, l'identité.
C'est ça.
Le regard de l'autre, le rapport à l'autre, oui. Dans la façon de se présenter.
Je suis le résultat de la parole, des altérations que les autres ont fait en moi.
Et Paul, a-t-il un discours type sur la résurrection du début à la fin, ou est-ce que ça va évoluer? Parce que chez lui, c'est quand même quelque chose d'un peu constant. Son discours,
oui.
est transformé au fur et à mesure.
Voilà. Suivant quand il écrit, peut-être suivant comment il est lui-même, mais souvent aussi à qui il écrit, on sent que son discours change, évolue. Et alors ce matin, nous vous proposons de voir 3 périodes où il écrit à ce sujet. On va prendre une chronologie, on va prendre le texte sans doute le plus ancien, Thessalonicien, un texte intermédiaire qui est dans l'Épître aux Corinthiens, et puis le dernier texte qui serait l'épître aux Romains, et on va voir que les discours, les tentatives, les illustrations sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il ne cite pas non plus les récits de Pâques. Alors, est-ce qu'il les connaît pas? Je ne sais pas. Mais il va utiliser d'autres images, d'autres traditions, d'autres éléments qu'il a reçus.
Alors, nous commençons avec une première lecture biblique. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13, tout d'abord, que je lis. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Et puis, ça continue un peu plus loin au verset 16 jusqu'au verset 18. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Alors, Pierre, il y a des images, là, des façons de dire les choses. Qu'est-ce que vous observez, vous?
Ah ben, c'est des images qui parlent. Il y a une trompette.
Ouais.
Hein, dans Verdi, là, tout d'un coup, une trompette qui réveille. Hein, ça sonne, hein, le cor de chasse. Et puis...
La voix de l'archange.
La voix, on est réveillé. Voilà. Et puis, il y a de la géographie. Hein, il y a le ciel. On monte.
Le Seigneur descend.
Il descend.
Et nous, on monte.
On est élevé. Hein, vous voyez, donc il y a tout le langage autour du réveil, de l'élévation, que Paul utilise en reprenant des éléments qui sont de sa tradition religieuse. C'est pas nouveau, il n'invente pas ces images. On les retrouve dans certains textes de ce que nous appelons le Premier Testament. Et donc, il utilise ces images pour dire une confiance et pour dire un réconfort. Vous voyez que là, la résurrection, c'est pas un contenu doctrinal à croire, c'est pas une théorie à adopter, mais c'est un comportement de confiance, d'espérance envers celui avec lequel j'ai déjà une relation et qui va se poursuivre avec ces images de réveil et d'élévation, de rencontre, de géographie, de temps.
Alors moi je trouve, là, d'ailleurs en vous écoutant, ça me frappe, on parle souvent de ces textes qui évoquent, la résurrection, la fin des temps aussi, tout se mélange, et parfois on essaye de faire peur un peu, l'Apocalypse, tout ça.
Oui.
Lui, il dit... Réconfortez-vous. Ce sont des paroles pour faire du bien.
Pour faire du bien, pour réconforter, pour dire une confiance, une présence, ouais. Et puis une sorte de continuité. Ce que nous avons déjà reçu, déjà vécu, va se poursuivre. On le verra tout à l'heure avec les différentes images qu'on va évoquer.
Dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 39, Pierre, vous continuez avec une autre lecture.
Voilà. Alors, quelques années après, d'autres destinataires, Paul écrit, le fameux chapitre 15 sur la résurrection à partir du verset 35. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu lui donne corps comme il le veut à chaque semence de façon particulière. Aucune chair n'est identique à une autre. Il y a une différence entre celle des hommes, des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Ils n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile.
Questionnement de Paul, voici comment les morts ressuscitent-ils?
Voilà. On voit qu'il change d'image. On n'est plus dans la trompette, dans le temps, mais il utilise des images de la nature, des corps célestes, des corps terrestres, qu'il n'invente pas, qu'il prend dans son matériel culturel, des images qu'on dit plutôt grecques, avec cette belle image du grain qui va mourir et qui va donner quelque chose qu'on ne maîtrise pas très bien.
D'ailleurs, il répond pas vraiment à la question, non? Plus ou moins, enfin.
Plus ou moins, ouais. Mais peut-il répondre, vraiment décrire autrement que par le langage qu'il utilise et qui évoque? Vous voyez, on n'est pas dans un savoir, une théorie à transmettre, mais dans quelque chose à ressentir, à évoquer et à adopter.
Quelques années plus tard, Paul continue dans une lettre adressée aux Romains et il reprend ce thème avec une autre approche cette fois-ci. Alors Vincent, est-ce que vous voulez bien nous lire ces textes, le premier au chapitre 8, les versets 38 à 39 ?
Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et puis il continue au chapitre 14, les versets 7 à 9.
En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie.
Bon, alors là, Pierre finit les trompettes, les nuées, la voix de l'archange, le grain, les deux demeures, deux vêtements, plus rien de cela, plus rien.
Plus rien, mais quand même, une conviction. Une parole de confiance, une liberté vis-à-vis des puissances de la mort. On n'est plus dans la recherche d'une description ou dans une théorie qu'on pose, mais dans l'affirmation d'une présence et d'un accompagnement, quoi qu'il en soit.
C'est magnifique quand même, ce « rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur ».
Voilà.
C'est fort.
C'est très fort, ça laisse en silence... Ça laisse sans voix, parce que on aimerait savoir, oui, mais concrètement, quand même.
Oui, c'est ça.
Eh ben non. Il y a simplement cette, et déjà tout est dit, cette parole de confiance envers celui qui nous a déjà accompagnés et celui que Dieu a accompagné dans la vie, dans la mort et dans le retour à la vie.
Donc Paul ne cherche plus à décrire, à expliquer, à convaincre. Il pose seulement. Alors, comment définiriez-vous ce qu'il pose sur la table, là, très concrètement ?
Dans l'Épître aux Romains ?
Oui.
Est-ce que c'est une conviction existentielle ? Est-ce que c'est une prise de distance vis-à-vis des images ? Est-ce que c'est aussi un questionnement, un renvoi aux auditeurs, à ceux qui vont lire, pour leur dire « il y a cette parole de confiance, que nous mourions ou que nous vivions, nous sommes en Jésus-Christ, comment le pensez-vous ? Comment le vivez-vous ? Comment le représentez-vous ? » Donc il n'est plus dans la proposition d'image, il n'est plus dans un dogme à croire ou une théorie à adopter, mais dans un comportement, dans une relation de confiance qui se construit.
Oui, c'est ce « j'ai confiance » qui finalement dit tout.
Je ne sais pas, mais j'ai confiance.
Ouais. Bon, Vincent, je me tourne vers vous, c'est peut-être le moment idéal, parce que j'imagine que ce mot, ce verbe, ressusciter, vous a intéressé au point d'écrire pour nous une chronique, tout de même, vous êtes venu avec.
Il y a une très belle réplique dans les souvenirs d'enfance de Pagnol, je pense. Ça va comme ceci, le matin vers 6h, nous emmenâmes Paul, encore mal éveillé, mais assez joyeux de l'aventure, et il marcha bravement entre nous. En arrivant au petit œil, nous trouvâmes pris au piège un pinson. Paul le dégagea aussitôt, le regarda un instant et fondit en larmes d'une voix étranglée. « Il est mort ! Il est mort !»« Mais bien sûr, dit Lily, les pièges, ça les tue. Mais je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Il faut le démourir !» C'est génial, hein ?
Démourir.
Non, démourir, transitif ou intransitif du troisième groupe, veut dire revenir à la vie, c'est-à-dire ressusciter, comme au matin du troisième jour, encore mal éveillé, avec une gueule de bois pas possible de cette inconcevable déception « Jésus est mort ». Pierre, Paul, Jacques et les autres auraient pu s'écrier ça en cœur. Ça craint, les gars, il est vraiment mouru. Et plus tard dans la matinée, Marie, tout à sa joie de l'avoir vu en vrai, devient la radieuse pionnière de ce que s'écrient à Pâques tous les chrétiens, solennellement mais non sans joie. Il est démouru. Il est vraiment démouru. Ça serait une bonne idée, hein ? Peut-être que les gens se diraient « démouru ». Mais c'est rigolo, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, démouru ? Démouru, moins flippant que ressuscité. Et alors, on parlerait de Jésus autour d'un cacao chaud, d'une lèvre ou d'un verre de Trebbiano. Simplement, ça, joyeusement, hein, on se réjouirait, point. Ah non, il a dû suer, Paul, hein, à tenter sans relâche de promouvoir cette idée. Ressusciter, mais c'est un mot périmé comme un vieux pot de yaourt oublié, ça. Ressusciter, mais quelle blague, se disait-elle tous, il complètement frappadingue, ce Paul. D'ailleurs, à quoi bon se raccrocher aux flammèches d'espérance qui, malgré tout, vacille au cœur de la dévastation, s'écrierait l'un des deux pèlerins, déconfit total, main dans les poches, triste et pâle, shootant dans les pierres sur le chemin d'Emmaüs avec juste à cœur l'envie de se jeter sous une trottinette pour en finir. Mais allez, mon gars, lui dira Jésus, mais bouge de là, hein. Oh, pauvre pèlerin, en même temps, oui, que puis-je savoir, que dois-je faire, que m'est-il permis d'espérer, se demande Kant. La vérité existe-t-elle, interroge Descartes, que peut telle ou telle chose, s'enquiert Spinoza, et quant à moi, puisque je sais désormais qu'on n'échappe pas aux catastrophes existentielles, mais non, hein, oubliez ça les amis, non, on n'y échappe pas, non. Et puisque toute vie humaine est couturée d'une dimension tragique, écrit le philosophe Denis Moreau dans son très beau livre « Traverser les nuits de nos vies », j'en suis venu à penser qu'il n'y a au fond qu'une question qui vaille. Nous, abattus, terrassés, au temps de la déréliction, saurons-nous nous relever, je veux dire, ressusciter?
Alors le voilà peut-être le mot pour dire.
Ressusciter, voilà, on y est, ce mot splendide et inquiétant, concave et convexe, inspirant et sidérant, qui me laisse perplexe au point que je ne sache jamais l'orthographier correctement, soit dit en passant. Non, ça m'inquiète quand même, ça raconte quelque chose ou pas, non?
Ne vous inquiétez pas, moi c'est pareil.
Non mais regardez, chaque fois que je l'écris, il se souligne en rouge, je me dis, purée, mais enfin, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui ne va pas? R-E-S-S-U-S-I-T-E-R, pan en rouge, bon sang, mais combien de S alors? R, E, 1 S, puis 2 S, ou bien R et A? Il n'y a pas besoin d'accent puisqu'il y a 2 S. Donc, R, E, 2 S et S, C comme dans susciter. Et c'est là, il y a une clé. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours je l'oublie, alors que chaque fois ça m'apparaît d'une limpidité magnifique. Pour écrire correctement ressusciter, il faut penser à ressusciter. Susciter à nouveau quoi? Mais tout! La vie l'inspire, le désir, le mouvement, se réveiller, se relever, réinspirer, se remettre en chemin, réenvisager, reconsidérer, renouveler, revivre. Le verbe ressusciter se conjugue avec l'auxiliaire être pour former les temps composés de la voix active. Genre, je suis la vérité et la vie, dit-il. Une fois démouru à jamais. Démouru à jamais. Mais comme c'est beau. Allez, c'est cadeau, c'est pour nous. Croyez au démourage et vous aurez la vie. Voilà ce que Paul aurait pu écrire sur les banderoles de sa manif Résurrection pour tous. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. Alors, croyez au démourage et vous aurez la vie. C'est pas mal, hein, sans rire, ça. C'est fort, quand même.
Je dirais même que c'est très fort, en effet, cher Vincent. Merci. Pierre, ce démourage, ça vous parle?
Ah oui, beaucoup. Et l'insistance sur le « re », oui, en fait. Hein, comment traduire dans cette multiplicité de langage cette parole, cette conviction de ressusciter. Je vais être ressuscité.
On arrive au bout de la réflexion, mais on a encore du temps et on pourrait peut-être essayer de mettre des images, oui, nous aussi,
on
sur
va
tout
faire
ça.
Comme Paul. Ouais. Mais pas au premier siècle. On va proposer comment d'autres peuvent dire cette conviction de la résurrection.
Alors Pierre, vous savez que j'aime beaucoup le cinéma, et je crois que vous aussi, et oui, dans la préparation, on a évoqué un film. Un film assez ancien, français, de 1984, d'Alain René. Moi, je l'ai regardé à nouveau pour préparer l'émission. Je le recommande. L'amour à mort de René, avec Fanny Ardant, Pierre Arditi, Sabine Azéma. Une réflexion extrêmement élégante sur la mort, sur l'amour, sur la foi. C'est le récit d'une résurrection présumée, puis d'un deuil impossible et un couple de pasteurs, parce qu'on est vraiment au cœur du protestantisme là, au cœur de ce scénario, qui sont là. Et puis il y a tout à la fin, deux mots, enfin le même dit deux fois, ces mots qui résonnent comme un point d'orgue du film.
Nous ressusciterons.
Deux fois nous ressusciterons, et ça fait écho à « Deux fois, je te le promets », dit par Sabine Azéma un peu avant.
C'est très fort, hein, ces dernières paroles, cette affirmation, cette confession de foi en nous. Voilà. Après toute une histoire, tout un vécu, d'amour, de mort, de peine, de séparation, de confiance. Et cette signature finale, finalement, au moment où on va vers la mort, d'affirmer, avec ce langage traditionnel, nous ressusciterons.
Alors il y a aussi quelque chose de très beau dans un livre chez Labor et Fides d'Olivier Boer, Le protestantisme à table, les plaisirs de la foi. Alors vous imaginez que ça, c'est un livre qui m'intéresse. Dans une fiction, Olivier Boer montre les affinités possibles entre la foi et la table, entre la spiritualité et le bien manger. Et au moment du décès de la grand-mère qui était une très bonne cuisinière, il y a la parole de résurrection dans la liturgie du culte d'obsèques qui est utilisée. Et c'est le langage du repas. Le royaume de Dieu ressemble à un grand repas. Et le livre se termine ainsi, par cette anecdote entre guillemets, mais qui dit tant. Juste avant l'enterrement, notre fille a rédigé le menu qu'elle souhaitait manger dans le royaume de Dieu. Elle a soigneusement plié la feuille, elle l'a mise dans une enveloppe et l'a placée dans le cercueil en disant « Tu vois comme sa grand-maman saura quoi me préparer quand j'irai manger avec elle. » Voilà. C'est beau, hein ?
Et c'est la fin du livre. Ça se termine comme ça.
Et oui, oui, c'est magnifique.
Et là, vous avez la parole de résurrection. Je vais retrouver grand-maman et nous saurons, elle saura quoi préparer.
Ça me fait penser à ce verset dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Oui.
Celui qui, si tu viens m'ouvrir la porte, eh bien, moi, je viendrai et je souperai avec toi.
Et nous nous retrouvons.
Et nous nous retrouvons. Bon, voilà. Quelques images encore,
oui.
Venant de jeunes avec qui vous avez travaillé.
Alors,
sur
dans
ces questions.
Alors, dans le catéchisme, quand ils ont 14, 15, 16 ans, on travaille la mort et la résurrection. Et un exercice consiste à leur demander de choisir une image qui représente la mort et un objet qui représente la résurrection. Et je vais en citer deux.
Deux, ouais.
Il y en a un jeune qui a pris comme image de la mort un grand croisement d'autoroute, là où il y a plein de croisements de routes, pour dire eh ben, que la mort, c'est le moment donné où les routes se séparent et on se quitte, on prend d'autres chemins. Et pour dire la résurrection, en tension avec ce croisement, le jeune a choisi une page blanche, totalement blanche, une feuille blanche, un A4. Hein. Il a dit, la résurrection, c'est comme une page blanche, comme un DVD vierge, comme une feuille vierge, où on va écrire quelque chose, où va se développer des possibilités, de l'attention, des couleurs, mais c'est là. Mais tout sera à faire.
C'est très très beau.
C'est très fort.
Ouais, ouais. Une deuxième ?
Une deuxième. Alors, un jeune a choisi, une jeune d'ailleurs, une photo de métro, où il y a une rame de métro qui part, et il y a une main qui est coincée un peu, qui part avec la rame de métro, qui essaye de saisir un violoncelle, voilà, qui reste sur le quai.
Ouais.
Voilà. Et donc elle dit, la mort c'est un départ, et on quitte, on perd quelque chose. Alors est-ce que c'est la personne qui part morte dans la rame de métro,
et violoncelle qui reste.
Qui reste, on sait pas, voilà, mais on sent qu'il y a quelque chose d'essentiel autour de cette perte, ouais, de cette tristesse, de cette blessure aussi, de perdre quelque chose.
Et
puis pour dire la résurrection, elle prend une partition d'aujourd'hui, en disant, alors vous voyez qu'il y a un lien entre les deux, hein, on retrouve ouais, Paul, hein, voilà, il y a un lien entre les deux, c'est une partition, bah, parce que, il y aura de la suite et il y aura de la beauté, il y aura quelque chose aussi à interpréter autrement, de la nouveauté, mais il y aura de la musique qui va exprimer quelque chose de fondamental, mais dont on ne sait pas encore comment ça va se faire. Mais ça sera beau, ça sera de la partition.
Alors vous m'avez montré un peu le travail qui a été fait là, il y a très très belles choses, parfois originales aussi. Moi j'ai relevé celle-là que je trouve assez drôle et en même temps extrêmement parlante. Une feuille blanche là encore, oui, mais pas totalement. Il y a comme deux cils, comme des yeux fermés en fait.
Pour dire la mort.
Oui. Et là, les cils pour parler de la mort, parce qu'ils sont disposés d'une telle façon qu'on dirait ceux d'un défunt. Donc là on est dans du concret, et puis du concret aussi avec l'objet pour dire la résurrection. On peut dire le nom du médicament, c'est du Doliprane. Le Doliprane pour la résurrection, parce que c'est un médicament qui soigne tout. Joli aussi.
Joli.
C'est ça qui est intéressant avec les images, oui, les objets, c'est qu'ils se suffisent à eux-mêmes pour ouvrir notre esprit,
voilà,
à...
Et pour choses. Mettre ensuite des mots, voilà. Du langage, pour dire quelque chose d'indicible, cette conviction de la résurrection. Hein.
Et vous aviez une dernière image qui est aussi très belle et qui nous permettra de lancer ensuite le morceau final.
Voilà, c'est une des nombreuses versions de la rencontre de journalistes avec le grand théologien protestant Karl Barth, où on lui dit « Avez-vous une certitude sur Dieu, sur la résurrection ?»
Alors comment réagit-il ?
La première réaction, c'est le silence. Ce qui est une réponse.
Oui, ça dit beaucoup.
Ça dit beaucoup de choses, le silence. C'est déjà une parole, c'est déjà un langage. Puis comme les journalistes insistent et que c'est le grand professeur, il dit une certitude sur la résurrection. Donc il pose, il renvoie la question. Ouais. Hein, on est dans le biblique. Puis comme il sent qu'il faut qu'il dise quelque chose, il dit « Nous écouterons ensemble du Mozart ».
Wow. Eh bien, nous arrivons au moment de nous séparer. Merci beaucoup, 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 Pierre Magne de la Croix, pour cette très belle proposition en 4 épisodes qui nous a permis de réfléchir avec l'apôtre Paul. Ces 4 émissions étant bien sûr disponibles en réécoute sur le site de France Culture, en podcast sur l'application Radio France. Et je vous souhaite à Vincent et à Pierre, entre Pierre et Paul, là, je me perds, à tous les deux une très bonne avancée vers Pâques, puisque c'est dans 2 semaines une occasion de dire encore et toujours de main de façon la résurrection du Christ et surtout, comme vous nous le disiez, de pouvoir garder confiance. Au revoir Pierre, au revoir Vincent.
Merci, amen.
Eh bien, nous écouterons du Mozart pour nous quitter. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Joffe et avec Mathieu Leroux à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, à 10h, premier dimanche du mois, dans Présence protestante, le magazine Ma Foi. Et ici, sur Culture, à suivre vos informations et ensuite Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 8h30.